Radio Prague, les informations.
Bienvenue à l'écoute, voici les titres de ce bulletin. Le Parlement tchèque vote des mesures exceptionnelles pour réduire le déficit public. Václav Klaus, le président, s'explique sur le report de la ratification du traité de Lisbonne. Et puis 100 000 personnes devraient assister dimanche à la messe célébrée par le pape à Brno. La chambre basse du Parlement tchèque a approuvé vendredi un paquet de mesures législatives exceptionnelles destinées à réduire le déficit budgétaire en 2010 à 162,8 milliards de couronnes, c'est 6,5 milliards d'euros, et ça représente 5,2% du produit intérieur brut. Un accord cadre initial adopté le 10 septembre dernier par le gouvernement transitoire du Premier ministre Jan Fischer prévoyait un déficit record de 230 milliards de couronnes, soit 7% du PIB tchèque. Après un âpre débat de deux jours retransmis en direct par la télévision, les députés ont donné le feu vert, à quelques modifications près, au paquet de mesures d'austérité avancé lundi par le cabinet. Il s'agit d'un compromis très solide et très correct, a résumé Jan Fischer dans une brève allocution qui a suivi le vote. Le président de la République tchèque, Václav Klaus, refuse d'apposer sa signature à la ratification du traité de Lisbonne avant le verdict de la Cour constitutionnelle, qui devrait se prononcer après avoir été saisi par un groupe de sénateurs tchèques. C'est ce qu'on apprend dans une lettre adressée par le président à la vice-présidente du Sénat, Lena Gajdůšková, du Parti social-démocrate. Václav Klaus explique dans cette lettre que plusieurs sénateurs lui ont demandé de différer la ratification jusqu'au verdict justement de la Cour constitutionnelle et qu'il a fait suite à leur demande car il veut respecter les droits qui leur sont garantis par la loi. Le recours constitutionnel devrait être déposé par ces sénateurs mardi prochain. 100 000 fidèles et une centaine de prêtres sont attendus ce dimanche à Brno en Moravie, où le pape Benoît XVI célébrera une messe en plein air. Le pape visitera la République tchèque du 26 au 28 septembre. Lundi, Benoît XVI se rendra dans la ville de Stará Boleslav, où il célébrera une messe devant 50 000 croyants et 700 membres du clergé. Parmi les participants, il y aura des visiteurs de Slovaquie, de Pologne, d'Allemagne et aussi d'Autriche. Plus d'informations sur cette visite papale, ce sera dans un instant, juste après ce bulletin d'information. Et puis on passe à la culture avec du cinéma, et c'est le film du réalisateur Marek Nybert, intitulé Protector, le protecteur en français, qui a été choisi par l'Académie du cinéma et de la télévision tchèque pour les nominations pour les Oscars américains. Le film raconte l'histoire d'un journaliste de la radio et de son épouse juive au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Le film n'est sorti que très récemment dans les salles tchèques. Sa première internationale aura lieu en octobre au Festival international du film de Londres. Les rôles principaux sont campés par les comédiens Marek Daniel et Jana Plotková. On termine avec la météo, et ce samedi, le temps sera clair et les températures diurnes se situeront entre 17 et 21 degrés pour les maximales. Le bulletin vous était présenté aujourd'hui par Alexis Rosenzweig. Dans un instant, vous retrouvez Alena Gebertova et je vous retrouve pour un entretien avec le prêtre jésuite Peter Collage juste après.
Faits et événements en République tchèque. Alena Gebertova.
La visite du pape Benoît XVI en République tchèque, qui se déroulera du 26 au 28 septembre, sera le principal sujet d'une émission spéciale que nous avons préparée à cette occasion. Pour finir ce programme, pas comme les autres, nous changerons de thème et parlerons du peintre tchèque Otakar Kubin, qui était lié par de nombreuses attaches à la France et dont l'exposition se tient actuellement à Prague. Benoît XVI est le deuxième pape à se rendre en Tchéquie. Son prédécesseur Jean-Paul II avait visité le pays à trois reprises. Mémorable reste notamment son premier séjour en avril 1990, en pleine euphorie post-communiste. Benoît XVI n'est pas un homme des médias, ses paroles sont plus sporadiques, mais elles sont en revanche très fortes. C'est ce qu'a rappelé à la veille de la venue du pape à Prague l'évêque Václav Malý, un des principaux organisateurs de cette visite. Une visite qui est pourtant assez largement médiatisée et à laquelle une chaîne de la télévision publique consacrera pendant les trois prochains jours des programmes spéciaux avec des retransmissions en direct. encourager la population tchèque à la foi. Tel est le message principal du voyage du pape dans une Tchéquie associée à l'image stéréotypée de pays daté. Václav Malý précise.
En ce qui concerne le contenu spirituel de cette visite, la conférence épiscopale tchèque a proposé trois thèmes définis par les mots « foi »,« espoir » et « amour ». Nous nous attendons à ce qu'un encouragement soit donné aux fidèles et dans le même temps à ce qu'une inspiration soit adressée à tous ceux qui tâtonnent et qui désirent trouver un ancrage spirituel. Nous avons tous besoin d'un espoir, surtout aujourd'hui, au moment de la crise économique.
Naději potřebujeme dneska všichni, zvláště teď teda v době krize.
Prague, Brno et Stará Boleslav, telles sont les trois escales du séjour de trois jours du souverain pontife en République tchèque, qui se veut en tout premier lieu pastoral, mais pendant lequel des thèmes plus séculiers devraient être également évoqués, parmi lesquels notamment la chute des régimes communistes il y a 20 ans ou les enjeux européens. Le pape va-t-il prononcer aussi deux ou trois mots en tchèque? Une question qui peut préoccuper tous les fidèles qui assisteront aux deux grandes messes que Benoît XVI célébrera en latin. Comme promis, la suite de notre programme est également consacrée à la visite du pape en République tchèque. Une émission spéciale sous la forme d'un entretien réalisé par Alexis Rosenzweig avec le prêtre jésuite Petr Kolář, ancien membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel tchèque et également chevalier de la Légion d'honneur.
Petr Kolář, bonjour. Est-ce qu'on pourrait commencer par peut-être détailler les étapes les plus importantes du pape Benoît XVI au cours de son séjour d'un week-end ou d'un grand week-end en République tchèque, à commencer par le Jezulatko, qui est en français l'enfant Jésus ou le petit Jésus de Prague, je crois.
Alors, il arrive donc samedi vers 11h30, il y a un accueil à l'aéroport, et ensuite il se rendra à Vorchilska, c'est-à-dire le lieu où se trouve l'annonciature, le siège de représentant du Vatican en République tchèque. Et là, il va probablement loger. Moi, j'ai pas lu cette information. On la donne pas officiellement, probablement, mais normalement, il est chez lui là. Comme un ambassadeur peut recevoir les membres du gouvernement, alors le nonce reçoit le pape. Ensuite, l'enfant de Jésus de Prague, c'est déjà un point qui est marquant dans le sens où c'est un objet de piété populaire. C'est une église peut-être la plus visitée de Prague, mais visitée par des gens qui sont souvent pas croyants. C'est je dirais, du folklore religieux. Donc un pape qui se rend dans un lieu comme ça, il manifeste à la fois son attachement à cette piété populaire massive, et surtout il y a beaucoup d'étrangers qui viennent, mais en même temps il y a une connotation, un petit point d'interrogation, est-ce qu'il n'y aurait pas de lieu symboliquement plus important que l'enfant de Jésus de Prague?
Alors cet enfant Jésus de Prague, est-ce que vous pouvez nous en parler brièvement? Pourquoi est-ce que c'est un lieu de piété populaire et pourquoi est-ce qu'il intéresse autant d'étrangers? Et j'en ai vu beaucoup qui venaient d'Amérique latine pour le voir.
Son histoire est relativement simple et pendant assez longtemps, l'enfant de Jésus de Prague, c'est une statue en cire qui est venue de l'Espagne par une noble tchèque qui l'a apportée. Et la particularité, c'était que chez les Carmes, parce que l'église appartient aux Carmes, on commençait, je crois, autour du 1750 ou par là, donner à cette statuette qui est toute petite. On est très surpris quand on la voit, elle n'a pas un demi-mètre, hein. Elle doit avoir 40 centimètres. On lui donnait des vêtements somptueux de la couleur liturgique. À l'époque, il y en avait beaucoup. Il y avait le vert, le blanc, le rose, le bleu, le noir, le violet et certaines couleurs encore d'autres. Et alors, les nobles tchèques, pendant la période baroque, qui cultivait ce genre d'image, allez voir une église baroque, vous verrez les petits anges qui sont partout sur le plafond, sur les murs, souvent pas vêtus, comme petits enfants encore à l'âge où ils marchent pas. Donc cette statuette faisait un pendant et un contrepoint, parce que cette statue était habillée vraiment de vêtements non seulement très, très beaux, mais aussi de grande valeur. Souvent, ça a été brodé en or et en argent avec des perles et les pierres précieuses. Donc c'est là que d'abord la population a été attirée par la beauté de ces vêtements. Et de là découle petit à petit le courant presque ininterrompu de visiteurs qui vont voir cette statuette. En dehors de cela, elle n'a pas de lien direct à l'évangile ou à la prédication de l'évangile chez nous, à l'évangélisation. Pas du tout. C'est vraiment quelque chose de la piété populaire.
Alors, est-ce qu'on peut continuer et parler des autres étapes du pape lors de ce séjour en République tchèque? Il va ensuite se diriger vers l'est du pays avec plusieurs étapes importantes encore.
Ne faisons pas trop de détails, parce que les gens en France ne savent pas les noms des lieux qui sont connus en Tchéquie, les lieux de pèlerinage, Boleslav, etc. Il y a une messe pas loin de l'aéroport de Brno, qui est la deuxième ville du pays, et en même temps la capitale historique d'une partie orientale du royaume de Bohême, qui était toujours le fief du dauphin. Tant qu'il y avait la famille royale de Premyslid, le fils aîné était, pendant le temps où son papa était à Prague, il était Markgraf, comte de Brno. Et cette partie de la République, aujourd'hui encore, 10 siècles presque plus tard, garde une certaine jalousie pour son importance et pour sa place. Permettez-moi de vous dire une chose importante qui ressort maintenant. Cette ville, pendant la période monarchique, qui durait du 15e jusqu'au début du 20e siècle, donc beaucoup, beaucoup de temps, cette ville vivait en proximité de Vienne, qui est devenue la capitale de la monarchie. Au début c'était Prague, ensuite c'était Vienne, qui est vol d'oiseau, je parle les mesures dans la tête, mais vol d'oiseau, ça doit pas faire beaucoup plus que 80-100 kilomètres au maximum. Et il n'y a pas de frontière naturelle, hein. C'est la plaine morave. Donc cette ville a vécu un moment important dans son histoire, surtout au 19e, où la Bohème était industrialisée, il y avait des usines, des fabriques à Brno. Et la période communiste, qui a construit un mur imperméable entre l'Autriche et la République tchèque, a causé beaucoup de dommages à la ville de Brno. Donc elle est dans une période de retrouvailles de son passé, de son importance, et c'est, je pense, pour cela que certaines visites et certaines choses se font à Brno, d'autant plus que la Moravie est beaucoup plus... les catholiques moraves sont plus nombreux que les catholiques tchèques, c'est une piété plus populaire, ce n'est pas des intellos qui discutent indéfiniment des problèmes, c'est des gens qui font des pèlerinages, mais c'est un catholicisme vivant. Et je pense que le pape pense aussi à cela, à aller faire la visite là où les catholiques effectivement vivent. Il y a pas loin de Brno le fief du catholicisme slave, pas seulement tchèque, Velehrad, où Saint-Cyril et Méthode ont prêché et ont fondé la culture slave en créant l'écriture, la première écriture écrite en slavon à l'époque. Et le premier texte était le prologue de Saint Jean, le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. C'est les premiers mots qui ont été écrits dans cette langue, qui ensuite a donné azbuka russe, l'alphabet ukrainien, serbe, bulgare, etc. Donc il y a des raisons pourquoi pape aille en Moravie. Lui qui est allemand, à la différence des papes italiens, il a, je dirais, des connaissances et des sensibilités plus proches des pays slaves, dans un certain sens au moins, que les papes qui n'étaient pas connaisseurs du lieu, sauf évidemment le dernier, Jean-Paul II. Alors là, ça c'est une autre chose, ça c'est le pape pour les Slaves. Mais
et quelle est l'image de ce pape comparée peut-être au précédent? C'est un peu plus difficile puisqu'il n'est pas slave et que Jean-Paul II avait quand même une certaine aura grâce à son combat aussi politique. Vous avez une idée de l'image qu'a Benoît XVI auprès des Tchèques?
Je pense que les Tchèques n'ont pas d'image précise. Le pape polonais, c'était autre chose. D'abord, il est venu dans des moments très importants, et puis, on peut le dire avec un petit sourire flatteur, c'était un comédien. Il savait faire avec les foules. C'était un homme médiatique parmi les évêques exceptionnel. Oh, Benoît XVI n'est pas ça. C'est un intellectuel, un professeur. Je l'ai connu comme archevêque à Munich, quand j'étais étudiant à Munich il y a maintenant plus de 30 ans. Il n'a pas fait beaucoup de... Il s'est pas fait beaucoup d'amis parmi les clercs à Munich. Hein. C'était conflictuel en partie, comme toujours les intellectuels. Ils posent des questions, ils répondent aux questions. Les uns sont pour, les uns sont contre. Ce n'est pas comme un pape qui est un tribun de peuple, qui parle un langage qui est acceptable pour tout le monde. C'est le dénominateur commun minimum. Mais c'est comme ça qu'il faut faire avec les foules. Et ça, un pape qui est intellectuel, qui coupe comme nous tous. Moi, je me compte aussi tout petit peu dans ce rang. On coupe le cheveu en quatre toujours. On n'est jamais accepté par tout le monde. Donc ça, il ne faut pas attendre une émeute de la foule à cause du pape. Non, ce sera plus sobre.
La visite d'un pape n'est jamais officiellement politique en premier lieu. Mais est-ce que cette visite, ce week-end jusqu'à lundi, peut faire avancer les choses? On sait que la République tchèque fait partie de ces derniers États qui n'ont pas conclu de traité avec le Vatican et que le principal objet de discorde ici entre l'État et l'Église, ce sont ces restitutions.
Je pense que de ce point de vue, il n'y a rien à attendre. Nous sommes dans une situation tellement dramatique et tellement délabrée politiquement que je pense que les hommes qui seraient les partenaires de cette négociation, de notre côté, ont la tête complètement ailleurs. On pourrait même dire que le pays n'a pas le cœur à la fête. Je ne sais pas comment le voyage a été préparé, qui a lancé l'initiative, mais le moment ne pouvait pas être choisi moins bien, ça, pour tout ce point de vue. Nous n'avons pas de gouvernement valable, nous avons gâché notre présidence de l'Union européenne, les deux parties se disputent plus qu'ils ne gèrent les affaires, la corruption est parmi les plus élevées dans les pays de l'Europe, et on a même finalement pas décidé d'organiser les élections anticipées, puisque l'opposition a fait chuter le gouvernement, mais au dernier moment a reculé, ne veut pas d'élections anticipées, alors c'est une pagaille totale. Donc il n'y a pas de partenaires, et puis ceux qui sont là en tête, le président Klaus en tête, n'ont aucune envie de lâcher quoi que ce soit à l'Église.
Pourtant, on dit que certains députés du Parti chrétien-démocrate avaient levé la main et voté pour ce président de la République parce que ils attendaient de lui quelques efforts dans cette direction, en direction de l'Église.
Mais ils se sont trompés deux fois. Ils se sont trompés sur Klaus. Moi, je voterai jamais pour cet homme, je le dis ouvertement. Et deuxièmement, sur leur importance comme parti. Ils sont tout juste au-dessus de la barre de 5%, et je me demande est-ce que dans les élections qui vont venir, parce qu'ils se sont encore divisés en deux morceaux, deux partis, est-ce qu'ils seront présentés au Parlement? Ce sera la première fois depuis 1918 qu'ils ne seront pas au Parlement, parce que même pendant la période communiste, il y avait effectivement un parti chrétien de marionnettes, mais enfin, il était au gouvernement. Alors cette fois-ci, si les choses évoluent comme on voit les évoluer actuellement, ils ne seront pas présentés. Ils se sont trompés lourdement. Si c'était un grand parti qui faisait un accord comme ça avec les chefs, peut-être, et agit bien peut-être, aurait-il quelques moyens de faire pression sur un homme infléchissable. Mais les démocrates chrétiens, ils se sont trompés complètement deux fois.
Alors, pour quitter la politique et revenir à l'aspect plus religieux du voyage, lundi, ce sera la Saint-Venceslas, un jour très important ici. Est-ce que d'être à Stara Boleslav, ça vous paraît être mieux choisi, par exemple, que le Jesulatko, que l'enfant Jésus? Ou plus logique, peut-être?
C'est une coïncidence pour moi, parce que j'ai fait mon service militaire à l'ombre de l'église qu'il va visiter. À l'époque, il y avait un stockage de matériel militaire, et moi j'étais dans une unité de travail, non pas dans l'unité de combat. Donc je faisais mes deux heures de sentinelle quatre fois par jour à l'ombre de l'église, avec le carillon qui faisait chaque fois, qui réjouissait mon cœur. Saint-Venceslas, c'est curieux, depuis la chute du régime communiste, est devenu une fête nationale. De mon point de vue chrétien, c'est justifié de tous les points de vue. C'est le fondateur de la dynastie de Przemyslid qui a amené ce pays dans l'orchestre des pays européens développés. Il ne faut pas oublier que la Bohème était au Moyen-Âge une puissance moyenne et impériale pendant presque trois siècles. Donc c'est le début. Puis c'était quelqu'un qui avait pour un prince, parce qu'il n'était pas roi, pour un prince une formation, une éducation exceptionnelle. Il était encore formé par les prêtres slavons, qui sont venus donc avec Saint-Cyr et les maîtres au IXe siècle. Il a vécu au Xe siècle, n'est-ce pas? Donc c'est 9e, 10e, il y en avait, Boudetch, pas loin de Prague, c'est là qu'il a fait ses écoles. Il a été latin lui-même et germanique, il parlait, écrivait tchèque, latin, slavon, latin et allemand. Hein? C'est déjà ça. Et puis, son geste au départ, qui a été beaucoup vilipendé, mais maintenant les historiens le reconnaissent, un petit état naissant à l'est d'une puissance germanique, que ce soit les Saxons ou que ce soit les Francs, ne peut pas s'affirmer par le combat. D'ailleurs, son frère qui l'a assassiné, les communistes, et déjà avant certains anticléricaux, disaient que c'était nécessaire, Boleslav était un vrai roi puissant, etc., Venceslas cédé, mais il s'est fait battre tout de suite, Boleslav, et ce que Venceslas aurait donné sans guerre et sans effusion de sang, il était obligé de le donner après. Nous n'étions pas un grand pays vis-à-vis d'un voisin comme ça. La méthode Venceslas, réconciliation, négociation, aujourd'hui, qui est-ce qui voudrait une guerre pour un conflit? Est-ce que c'était pas vraiment la solution déjà d'avant la date, hein? Donc, pour moi, ce symbole est bien choisi. Je suis étonné que l'Assemblée nationale, où les chrétiens sont, je sais pas, 5%, ait pu voter cette loi de la fête nationale Saint-Venceslas. Ça, c'est une des belles surprises que j'ai eues ici dans les années 90.
Peter Collard, je vous remercie.
Je vous en prie.
Jusqu'ici donc, le prêtre jésuite Peter Collage au micro d'Alexis Rosenzweig. Et pour finir, on changera de thème et parlera art plastique. Les visiteurs du Palais des Foires, qui abrite le Musée d'art moderne de Prague, peuvent voir une exposition d'art graphique d'Otakar Kubin, connu en France sous son nom francisé, Otton Kubin. Cet artiste aux deux noms et aux deux identités est tombé amoureux de la Provence. C'est en Provence qu'il a décidé de vivre et ce sont les paysages provençaux qui sont devenus le thème principal de son œuvre, Václav Richter.
Ce sont les paysages des environs des bourgs d'Apt et de Simian-la-Rotonde qui figurent le plus souvent sur les toiles d'Otakar Kubin. Le peintre, né en 1883 à Boskovice en Moravie, part au début du XXe siècle à Paris, comme d'ailleurs beaucoup de jeunes peintres tchèques de cette époque. Il subit l'influence du cubisme et d'autres courants artistiques, mais continue à chercher une expression personnelle. C'est la découverte de la Provence qui jouera un rôle capital dans cette recherche.
Je suis venu dans cette région par hasard. Je devais aller à la mer, mais j'ai rencontré un ami poète qui m'a dit de laisser tomber ce projet et d'aller à Apt, dont il connaissait le maire. Et il a voulu que nous fassions connaissance, alors j'ai pris la décision et j'y suis allé. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé dans le sud de la France.
C'est au début des années 1920 que le peintre s'installe définitivement en Provence et se met à observer le paysage provençal. Son amour pour ce pays n'a rien d'un coup de foudre. Il doit apprendre à aimer ce pays qui lui semble d'abord gris, décoloré et brûlé par le soleil. « Je ne peins pas n'importe quel paysage », écrira-t-il plus tard. « Je ne peins que celui qui me dit quelque chose. » Cela n'est pas toujours évident à première vue. Parfois, je dois le voir 3 ou 4 fois quand, habillé par la lumière, dans le couloir, et les formes tout à fait nouvelles, il devient ce que je cherche. Et ce paysage est d'une simplicité et d'une grandeur antique. Les visiteurs de l'exposition du Palais des Foires peuvent voir une collection de ses dessins aux fortes pointes sèches et xylographies. Ses œuvres mineures représentent avec une simplicité digne d'un grand maître les paysages des environs d'Apt et de Simiane, mais aussi quelques nus de femmes et portraits imaginaires qui, malgré le style d'une sobriété néoclassique, ne manquent ni de sentiment ni de grâce. C'est de cette façon qu'il brosse aussi le portrait du paysage provençal, portrait du pays qui est devenu sa seconde patrie.
J'étais très content de pouvoir y vivre. Il n'y avait pratiquement pas de mauvais temps, le maire n'a compté que 16 mauvais jours tout au long de l'année. À part cela, le ciel était toujours bleu. C'est à ce maire que j'ai acheté la maison de ses ancêtres à Simiane. Cette maison déserte avait appartenu au docteur de Napoléon qui avait accompagné l'empereur lors de la campagne en Russie. La maison était pleine de tableaux et de bustes de Napoléon.
Otakar Kubin n'a jamais cessé de peindre des motifs provençaux. Il a saisi sur ses toiles certains motifs à plusieurs reprises, pratiquement sans changement, comme s'il ne pouvait pas s'en rassasier. Il a acheté non seulement une maison à Simiane, mais aussi le château de Cazeneuve, une vieille bâtisse quasiment en ruine, qu'il a partiellement restaurée. Il est resté fidèle à sa patrie d'élection jusqu'à sa mort en 1969 et c'est au cimetière de Simiane qu'il a trouvé son dernier repos. La Provence l'a rendu célèbre et c'est grâce à ses tableaux que de nombreux Français ont redécouvert le charme de ce paysage qu'il faut, selon le peintre, observer d'abord très patiemment et très longtemps avant qu'il n'apparaisse dans toute sa beauté.
C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette émission spéciale en français de Radio Prague, consacrée essentiellement à la visite en Tchéquie du pape Benoît XVI.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on 9-